Allô tout le monde et bienvenue à ce balado spécial de Noël où on va parler de générosité. Je suis votre hôte, Eugénie Francoeur, ex-journaliste, directrice générale d'une petite fondation et curieuse de tout ce qui touche de près ou de loin à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, je vous convie à une aventure différente de celle que je vous ai proposée jusqu'ici. Laissez-moi vous donner le contexte. Nous sommes une gang de 7 amis, Jeanne, Joanne, Lynn, Marie, Jean-François, Marie-Claude et moi. Depuis quelques années, nous faisons des projets créatifs communs qui nourrissent le cœur. L'initiatrice de ces projets est la coach et artiste multidisciplinaire Denise Noël. Cette année, nous voulions aider une petite entreprise de chez nous durement touchée par la COVID, dont la survie même est en jeu. Nous avions l'élan de faire vraiment la différence dans la vie de quelqu'un. Collectivement, nous avons choisi de venir en aide à l'école de danse La Station de Geneviève Boudreau. L'école est à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Notre belle équipe a mis sur pied plusieurs façons de ramasser de l'argent. Tout d'abord par un sociofinancement. Vous trouverez le lien sur cette page. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire un don. Et si vous écoutez ce balado après le 31 décembre et que vous avez quand même envie de participer, écrivez-moi et je vous dirai comment procéder. Ensuite, nous est venue l'idée de bricoler et de vendre des décorations de Noël. Ben oui, comme des enfants, nous nous sommes amusés. Tous les samedis matins, pendant 2 mois, nous nous réunissions par Zoom pour bricoler ensemble. Ce furent de bien beaux moments créatifs et humains. Ces rencontres ont été stimulantes pour tout le monde. Il fallait maintenant trouver une façon de vendre ces belles décorations de Noël. C'est alors que notre amie Jeanne, qui a un kiosque de vente de sapins au marché Jean Talon, a généreusement offert de tenir une journée spéciale à son kiosque. Cette journée magique a eu lieu le 5 décembre. L'entreprise de Jeanne a remis 5 $ à Geneviève pour chaque sapin vendu. Et comme vous l'entendrez, beaucoup de sapins ont été vendus. Jeanne nous avait amoureusement préparé un endroit douillet pour vendre nos décorations de Noël. Elles ont fait fureur et nous en avons vendu beaucoup, beaucoup plus que nous pensions. À notre grande surprise, à la fin de la journée, nous avons ramassé plus de 2 000 $ avec la vente de nos décorations maison. C'est mon cadeau de Noël à vous tous, chers auditeurs. J'espère que vous allez ressentir autant de joie à écouter ce balado que nous en avons eu à faire ce projet porteur de sens. Vous entendrez 3 personnes différentes. Tout d'abord, Geneviève Boudreau, qui nous raconte l'émouvante histoire de son école de danse et de son amour pour la danse. Ensuite, Giancarlo Bono, copropriétaire du kiosque chez Michel du marché Jean Talon, qui nous parle des élans de générosité de son entreprise et des beaux moments vécus. Finalement, Denise Noël, l'instigatrice de ce beau projet, nous explique pourquoi donner et recevoir, c'est bon pour la santé du corps et du cœur. Vous remarquerez aussi la douce voix de mon amie Marie-Claude Bourque, qui a participé à l'idéation de ce balado et qui a fait les 3 entrevues avec moi. Comme vous l'entendrez, Marie-Claude ajoute ses couleurs, son grain de sel et même son grain de poivre. Installez-vous confortablement et laissez-vous toucher par ce beau conte de Noël.
Ding-dong, 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 nos cœurs sont des beaux cadeaux. Ding-dong, 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 c'est l'heure de les déballer.
Bonjour Geneviève, bonjour Marie-Claude, merci d'être là toutes les deux.
Bonjour. Merci de l'invitation.
Geneviève, j'aimerais ça que tu commences par nous raconter ton histoire d'amour avec la danse. Ça remonte à quand, à où?
Ça remonte quand même à un petit moment. J'avais 9 ans en fait. J'ai commencé la danse relativement tard. La plupart des enfants là, qui vont poursuivre en danse ont commencé déjà très tôt. T'sais, c'est déjà dans... les valeurs familiales, ou c'est déjà un intérêt de la famille. Puis nous, la danse, ça faisait pas du tout partie de la famille. Moi, mes parents, ils ont travaillé en sciences, puis en santé. Fait que la culture, les arts, la musique, le mouvement, ça faisait pas partie de notre environnement familial. Sauf que j'avais une petite amie qui faisait de la danse, puis on cherchait une activité, ça faisait plusieurs activités qu'on essayait, puis j'accrochais pas, tu sais. Puis on est allé faire une classe d'essai, une fois, par hasard. Je savais même pas c'était quoi je m'en allais faire, tu sais, c'est mes parents qui m'avaient dit « on va faire une classe d'essai ». Puis ça a été le coup de foudre total. Premièrement, parce que c'était complètement différent pour moi, c'était totalement nouveau. Puis il y a eu un déclic qui s'est fait parce que j'ai soudainement réalisé que la danse, c'est ce que je voyais quand je regardais des films. C'est là que j'ai compris que ce que je regardais, sachant qu'on n'était pas dans un environnement musical, c'était de la comédie musicale. Je regardais beaucoup, beaucoup de films de comédie musicale, des classiques, des films comme The Sound of Music. J'ai des films dans ma tête comme Les Parapluies de Cherbourg, des films dans ce genre-là, puis West Side Story, puis on regardait ça, on adorait ça, ma sœur et moi, puis en arrivant à mon premier cours de danse, à mon premier test de danse, j'ai réalisé que c'est ça que je faisais. Donc ça a été un coup de foudre total, puis j'ai pu arrêter après.
Est-ce que tu as su tôt que c'était ça ta vocation, que tu voulais passer ta vie à danser?
J'ai su dès cet instant-là que c'est ce que je voulais faire comme activité, assurément. Puis rapidement, alors en l'espace d'un an, j'étais super investie, je prenais de plus en plus de cours, je me développais très rapidement. J'avais aussi, bon, ça l'a franchement aidé, j'avais des compétences, tu sais, naturelles, là. J'avais une facilité à apprendre, j'avais une facilité aussi physique à faire travailler mon corps pour qu'il réussisse à réaliser ce que je voulais lui faire faire. Fait que ça m'a motivée à me dépasser. Puis c'est ça, dès l'âge de, je dirais, 12-13 ans, j'étais déjà dans des groupes avancés, commençais à faire de la danse pas loin de 20 heures par semaine, là. Parce que j'aimais vraiment, vraiment ça. C'est pas du tout mes parents qui m'ont poussée à faire ça, là. C'est moi qui était motivée à ce point-là. Et c'est pas mal plus tard, par exemple, que j'ai compris que j'allais faire ça de ma vie. Parce que quand j'étais au cégep, je m'en allais en sciences. J'étais aussi très attirée par les sciences. J'adorais ça. J'étais très curieuse. Fait que c'est plus dans ce domaine-là que je m'en allais. J'avais été acceptée en biologie à l'université. Puis j'ai bifurqué à partir de là parce que je me suis rendu compte que finalement, peut-être que les sciences, ça serait ça mon passe-temps, puis que la danse et les arts de la scène, ça deviendrait mon métier. Fait que j'ai fait ce choix-là un petit peu fou de tout abandonner, mes études, puis d'aller auditionner pour le théâtre musical. Je suis allée étudier en théâtre musical à Sheridan College, qui est en Ontario, qui est le programme probablement le plus reconnu au Canada en théâtre musical. C'est une super formation. Je me suis exilée pour aller étudier en anglais.
J'ai des frissons quand j'écoute ton histoire, c'est beau! Ça, c'est ton histoire d'amour personnel avec la danse. C'est beau, c'est inspirant. C'était quoi le pas qui a mené à la création, la fondation de ton école de danse? Comment ça s'est passé?
C'est très intéressant comme histoire, ça aussi. Je m'enlignais pas pour ouvrir une école de danse du tout parce que moi, dans mes études à Sheridan College, mon objectif était pas mal plus d'étudier le théâtre et le chant. Puis oui, il y a la danse, évidemment, mais la danse, j'en avais fait toute ma vie. Donc, j'avais déjà un énorme bagage que j'amenais avec moi dans mes études. Puis c'est ce qui m'a démarquée, moi, dans ma cohorte, c'est que j'étais la danseuse parmi tous les chanteurs qui étaient là. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le théâtre. J'avais un grand intérêt pour le théâtre, puis j'avais aussi un petit peu de talent là-dedans, fait que c'est ce que j'allais chercher en étudiant à Sheridan College. Et c'est à la sortie de mes études, je faisais des auditions et des auditions, je suis revenue au Québec là pour me réinstaller au Québec. Puis c'est ça, j'ai fait audition après audition pendant quelques années. Et c'était pas facile, c'est pas évident de tailler une place au Québec, c'est un réseau qui est très, très petit. Puis ayant étudié ailleurs qu'au Québec, ça m'a pas ouvert des portes ici. C'est ce que j'ai réalisé pas mal. Puis dans le moment où est-ce que je commençais à me décourager un petit peu puis à perdre espoir que j'allais réussir à faire mon métier, à vivre de mon métier ici au Québec, il y a ma sœur Stéphanie, avec qui j'ai toujours été extrêmement proche. On a toujours dansé ensemble là, depuis l'âge de 9 ans. Elle en avait 7. Elle m'est arrivée un jour, puis elle m'a dit, « Tu te souviens-tu, quand on était jeunes, on avait ce rêve d'ouvrir une école de danse ensemble? » J'ai dit, « Oui, je me rappelle de ça, mais c'est très, très loin dans les projets. » Là, j'étais vraiment rendue ailleurs. Puis ma sœur, à cette époque-là, elle était répétitrice au Collège Charlemagne. Elle venait de terminer ses études en interprétation danse à l'UQAM. Puis elle avait ce désir-là de bâtir quelque chose elle-même. Puis elle m'est arrivée cette journée-là, puis elle m'a dit, « Tu te rappelles-tu de ce projet-là qu'on avait, c'est un rêve qu'on avait d'ouvrir une école de danse? » Elle dit, « Ben, moi, je suis prête à passer à d'autres choses puis à le faire. Je suis prête à tout abandonner, qu'est-ce que j'ai, puis partir cette école de danse-là. » Puis là, je lui dis, « Aïe, 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 c'est gros, c'est risqué, c'est un peu fou, je sais pas. Est-ce que je suis prête à, moi, mettre de côté ma carrière de comédienne que j'avais démarrée? » Puis là, elle m'a dit, « Écoute, tu peux y penser un petit peu, mais il faut que tu saches, si tu n'embarques pas avec moi, je vais le faire quand même. » Puis là, moi, c'est venu me chercher. Ça m'a vraiment fait aïe, il faut que j'embarque. Je peux pas laisser cette chance-là passer. Je peux pas rester à côté, voir ma sœur monter ce projet-là, soit toute seule, soit avec quelqu'un d'autre. J'ai dit non, non, non. Elle m'apporte cette ouverture-là pour une raison, puis j'ai embarqué. Fait que ça a été complètement fou. J'ai abandonné mon travail que j'avais à ce moment-là. J'ai dit je laisse tout tomber parce que je veux me concentrer à la création de ce projet-là. Fait que pendant un an, j'ai pris une année sabbatique. Puis avec ma sœur, à tous les jours, on se rencontrait, on a préparé notre plan d'affaires, on savait rien de l'entrepreneuriat, on s'est pris un livre « Plan d'affaires pour les nuls ». Puis on a étudié et fait chaque devoir qu'il y avait dans le livre. Puis c'est comme ça qu'on a parti.
Wow! C'est inspirant. C'est en quelle année, ça?
C'était... son ultimatum, c'était en 2008. Et en 2009, on a ouvert l'école. Fait que ça nous a pris un an, là, vraiment, du moment où est-ce qu'on a dit « OK, on embarque », ça nous a pris un an à préparer le projet. Puis l'étape ultime était de trouver un local, de signer un bail, puis de lancer notre première session, là, premières inscriptions. Ça a pris un an, tout ça.
Puis à partir de là, ça a été facile, ça a été difficile. Comment ça a été d'ouvrir une école de danse avec sa sœur?
Comme je disais, je connaissais rien de l'entrepreneuriat avant de partir une business. Ce que j'ai appris dans les 10 dernières années, c'est qu'il n'y a pas un jour que c'est facile. Il faut que le rêve soit extrêmement fort pour être capable de continuer, parce que ce n'est que des embûches, ce n'est que des difficultés. Quand on pense que ça va bien, c'est qu'il y a un problème quelque part. c'est ce que je retiens. Les moments où est-ce que je me dis, ah, OK, bon, je peux souffler un peu, me semble que je suis sur la bonne voie, ben, il arrive quelque chose que j'avais pas prévu. C'est d'essayer de prévoir l'imprévu, de l'imprévisible, puis c'est pas réel. Il y a toujours, toujours quelque chose qui se passe qu'on n'avait pas prévu. Le plan d'affaires, justement, c'est à ça que ça sert, c'est d'essayer de prévoir toutes les possibilités, puis on en avait mis, là, on avait des pages et des pages de choses qui pouvaient nous arriver. Il pourrait y avoir le feu à l'école de danse, on pourrait avoir une inondation à l'école de danse, je pourrais me casser une jambe, puis pas être capable d'enseigner. Tu sais, comme toutes les possibilités, on les avait mises, puis même à ça, j'aurais pu remplir un autre 10 ans d'imprévus là-dedans, là. Ça fait que c'est pas facile. Donc, le rêve, il est très, très... Il est très, très fort pour être capable de continuer. Puis moi, je dis toujours que je trouve ma force dans mes élèves. C'est les humains qu'il y a dans mon école qui fait que je continue. Parce que si c'était juste des objets, j'aurais lâché ça il y a longtemps.
C'est qui ta clientèle cible? C'est plus des jeunes, des enfants ou plus les adultes?
J'ai pas mal... C'est très varié. Je les appelle mes deux clientèles. Parce que j'ai ma clientèle tout jeune enfant, moyen et adolescents, que ça, c'est mes élèves à qui je n'enseigne pas moi personnellement. Donc, j'ai pas le même contact direct avec eux. Je rencontre un peu plus les parents pendant que les enfants dansent, mettons. Mais c'est d'autres professeurs qui leur enseignent. Fait que j'ai des perles. Hein. Ça prend des professeurs extrêmement qualifiés pour travailler avec des enfants, pour être capable de leur transmettre les informations, la gestuelle, la technique, de façon super pédagogique, tu sais. Puis moi, je mets là-dessus au maximum. Puis personnellement, je trouve pas que moi, c'est ma force, ça, auprès des enfants. Fait que je me concentre moi-même sur les adultes. Fait que j'ai mes deux clientèles. J'ai mes tout-petits, mes plus jeunes, que je vois grandir à distance sans leur enseigner directement. Puis j'ai mes élèves adultes à qui j'enseigne.
Je vais faire une petite pause avec toi. Je vais poser une question à Marie-Claude, parce que Marie-Claude, c'est une grande amoureuse de la danse aussi. Puis j'aimerais savoir comment elle se sent à t'entendre parler. Moi, ça m'inspire beaucoup. Fait que j'aimerais ça que Marie-Claude nous parle aussi de sa passion pour la danse.
Ben, je suis très touchée d'abord parce qu'on a beaucoup de... C'est fou, on a beaucoup de liens en commun parce que moi aussi, il n'y avait pas de danse dans ma famille. C'est arrivé sur le tard. Je m'en allais en sciences. Puis j'ai bifurqué ça. J'étais en sciences pures puis j'ai bifurqué vers la danse. J'ai fait un programme combiné puis à un moment donné, puis j'avais 18 ans, fait que c'est vraiment sur le tard. J'avais dansé un peu avant, mais... Oh mon Dieu, la danse, je dis souvent que ça m'a sauvé la vie, carrément. Puis c'est bien sûr, il n'y a pas que ça, là. Tu sais, c'est souvent les gens autour de nous qui font une différence, mais ça m'a... c'est comme si, avant de danser, j'étais à côté de moi-même. J'ai commencé à l'âge de 18 ans, ou même 19 ans au cégep, et tu sais, quand j'ai fait l'audition... la différence, la gauche, la droite, j'étais vraiment mêlée. Ils m'ont pris parce qu'ils ont vu à quel point j'aimais bouger, à quel point j'étais passionnée, mais je bougeais vraiment tout croche. J'ai été chanceuse qu'ils me prennent. Et c'est ça, ça m'a ramenée dans mon corps. J'ai pris conscience de... Et c'est d'une richesse et moi, au contraire de Geneviève, j'ai jamais eu de facilité à faire à mon corps qu'est-ce que je voulais qu'il fasse. Ça n'a jamais été facile. Jamais, ça ne l'est toujours pas. Mais j'ai persévéré. Et je veux dire, je suis massothérapeute aujourd'hui, fait que le lien est là, le corps en mouvement et tout ça. Donc, ça a été hyper important pour moi. Vraiment important. Fait que je peux comprendre comment, pour les enfants et les adultes, danser, à quel point c'est... Ça peut être essentiel.
C'est inspirant, c'est beau, deux histoires. Oui. Geneviève, je reviens à toi. Puis juste avant de parler de la pandémie et des répercussions difficiles, c'était quoi ton plus difficile moment dans ces 10 dernières années, ton plus beau moment, ta plus belle victoire dans ton école de danse?
Je pense que ma plus belle victoire, ça serait de ne pas avoir abandonné quand c'était difficile. D'avoir persévéré dans un contexte où est-ce que j'étais continuellement hors de ma zone de confort. J'ai continué pour tous les moments difficiles, même si... en fait, ce qui me donnait la force, c'est quand je pouvais mettre tout de côté, le côté entrepreneuriat, le côté directrice d'école, t'sais, gestionnaire, comptable, publiciste. Quand je peux mettre tout ça de côté, puis rentrer dans ma classe, puis enseigner à mes élèves. J'ai une passion pour enseigner à d'autres personnes. J'ai pas étudié pour être enseignante dans la vie, mais je sais profondément que c'est ma vocation parce que je suis très bonne pour encadrer, donner des directives. J'ai tellement d'amour à donner à mes élèves. Je suis tellement fière d'eux autres. Je suis passionnée de voir leur parcours. Je suis certaine qu'eux autres ne voient même pas tout le progrès qu'elles sont capables de faire. Mais moi, je vois toutes les petites choses. Je suis capable de, même si je suis pas dans leur corps, je suis capable de voir qu'ils ont compris des choses. Je suis capable de voir de l'extérieur tous les petits acquis qu'ils prennent. Je les vois s'amuser. Ils me donnent de l'énergie. C'est vraiment extraordinaire. Puis des fois, ça me tente pas d'aller enseigner. Je suis comme tout le monde, hein. Boulot, bon, ben, je vais y aller parce que j'ai pas le choix. Puis dès que je mets le pied dans la classe devant eux autres, il y a tout le temps un gros boom d'énergie qui survient, puis je le sais que je suis sur mon X, comme on dit, là. Puis j'avais, quand j'étais aux études, c'est sûr, comme tout le monde, je voulais être interprète, je voulais donc être sur la scène, puis tout ça. Maintenant que ça fait plus de 10 ans, ça fait presque 20 ans là, que j'enseigne et que je fais ce métier-là, puis ça ne me manque pas, la scène. D'être interprète, je le vis au quotidien quand je suis dans mes classes, parce que ça passe de là, ça part de moi pour le transmettre aux autres. Fait que je suis continuellement interprète, même si je suis seulement dans ma classe. Ça, c'est pour moi, c'est le gros plus. C'est mon bel accomplissement de ne pas avoir lâché. Puis le moment le plus difficile dans mon école, c'est étrangement même pas la pandémie, c'est après, c'est en 2010. Après un an qu'on avait ouvert l'école, ma sœur et moi, elle a eu un diagnostic de cancer de cerveau. Elle est tombée très, 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 très malade. Et moi, moi, je suis tombée enceinte en même temps de mon premier enfant. Alors, j'ai vécu... premièrement, j'étais très malade, moi aussi, en début de grossesse. Fait que j'ai pas pu être à l'école pendant plusieurs mois. J'ai été alitée. Et puis, ma sœur, parallèlement, était extrêmement malade. Faisait de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Donc, elle était, elle aussi, à la maison alitée. Donc, les deux capitaines de bateau étaient plus présents pour l'école. Puis, évidemment, ben, au niveau personnel, c'était extrêmement difficile là, parce que j'étais en train de perdre ma sœur. C'est toujours difficile d'en parler, même plusieurs années plus tard, parce que, ben, on dirait que ça le rend plus réel. Alors, c'est ça, ma petite sœur est décédée en 2013. Mais je pense à elle tout le temps. Puis, son énergie, son esprit, son amour, son cœur fait toujours partie de l'école. Puis, on était tellement pareils. On était très, très, très proches et très, très semblables. Même si on avait quelques mois de différence, on se faisait souvent passer pour des jumelles. Là, on était très proches. Puis, tout ça reste à l'école, même si je suis seule maintenant pour diriger le côté gestion et artistique de l'école. J'ai encore des élèves qui sont là depuis les tout débuts, hein, fait que j'ai une clientèle qui est là depuis jour 1 de l'école, qui est toujours avec nous, qui ont toutes vu les hauts et les bas de cette école et qui sont encore là parce que malgré cet événement dramatique, l'amour et le positif est toujours à l'école, est toujours présent. C'est pas triste, l'école de danse, là. C'est pas parce qu'il y a des bouts rough que tout est rough, là.
Ça me touche de t'écouter, de t'entendre raconter ton histoire, ton amour de ta sœur, ton amour de la danse, ton amour de l'école, ton amour des êtres humains. C'est inspirant.
Merci beaucoup.
Ouais.
Si je peux rajouter, je trouve que ce que tu viens de raconter, ça donne tellement encore plus de sens au projet qu'on fait pour soutenir l'école, pour qu'elle passe au travers. Ça me touche beaucoup. Merci, Geneviève.
Oui.
Merci à vous.
J'imagine que ben, tu l'as nommé très bien, les obstacles, les défis sont là tous les jours. Quand arrive une pandémie et que les écoles de danse ferment, ça fait quoi?
c'est la cerise sur le sundae, là. c'est là que je reviens à quand je pense que j'ai le contrôle. C'est parce qu'il y a un problème.
Je suis d'accord avec toi.
Oh, oui.
Je me méfie tout le temps maintenant quand je me sens un peu plus calme, plus apaisé, je me dis, ah, il y a quelque chose qui se trame. c'est un gros choc. C'est un gros choc. Déjà, le stress humain de la pandémie est présent pour tout le monde. Puis je pense que c'est ça. La couche supplémentaire, c'est le stress pour les petites entreprises là, qui tombent dans des cracks. T'sais, tout le monde fait son possible. Moi, j'ai vraiment l'impression que tout est mis en place là, pour aider le plus de monde possible au niveau financier, au niveau soutien. Là. Je pense vraiment que... Tu sais, je pense pas qu'on est des oubliés du gouvernement par exprès. Là. Je pense que vraiment, on tombe dans une catégorie qui est plus petite qu'une majorité, tout simplement. Puis à cause de ça, ben on passe un peu sous le radar, malgré les efforts qui sont faits. Hein, on est quand même extrêmement soutenus par le réseau d'enseignement de la danse, qui sont extraordinaires. Si j'avais pas eu ce réseau-là, je me serais sentie extrêmement perdue. La première vague a fait en sorte qu'on a perdu énormément d'argent. On a perdu plus de 50% de nos clientèles. Avant la pandémie, j'avais 255 élèves. C'était ma meilleure année depuis les derniers 10 ans. Là, j'avais enfin une clientèle suffisante pour subvenir à mes besoins. Ça a pris 10 ans pour ça. Là. Puis la pandémie a frappé une semaine avant le début de ma session printemps. Ça veut dire que si je ne peux pas donner mon premier cours, je n'ai aucun engagement. Mais les clients n'ont pas d'engagement envers moi. Là. Fait que j'ai perdu 90% de ma clientèle. Là. J'ai seulement une trentaine d'élèves qui ont accepté de poursuivre leur session en direct. Ça, c'est pas assez pour payer les comptes. Là. Loin de là, là, je paye parfois même pas mon professeur comme ça. Ce qui fait qu'on s'endette, on s'endette, on s'endette. Ce qui fait que les écoles de danse passent au travers des mois d'été où il y a à peine d'activité. Les gens sont en vacances, là. Les gens ne font pas d'activité à l'intérieur pendant l'été. Mais ce qui fait qu'on passe au travers de ça, c'est les revenus de notre spectacle de danse. Les revenus nous permettent de payer nos mois où il n'y a pas d'activité. Bien là, pas de spectacle de danse, il n'y a pas de revenus pour payer les mois d'été. On a poussé, poussé, on s'est endetté, emprunté à mes parents. Tu sais, on peut pas emprunter à la banque, là. On emprunte à qui on peut pour passer l'été parce qu'on a espoir qu'en septembre, on va réouvrir. On a tout mis en place que le gouvernement nous a demandé, là, des semaines et des semaines de préparation avec les plans de relance pour rendre nos espaces sécuritaires, les 2 mètres de distance en tout temps, les masques, le savon à main. Les plexiglas, tout ça, on a investi. On a refait des inscriptions. À l'automne, mes inscriptions, j'avais 50%, un peu moins, là, 45% de mes de clientèle qui est revenue, qui s'est inscrit en se disant « on va pouvoir revenir en personne ». J'ai réussi à faire 2 cours en personne avant que la deuxième vague frappe et qu'ils nous referment. Ce qui fait que à présent, j'ai été obligée là, d'annuler ma session. Malheureusement, la loi nous oblige à rembourser les clients. Là. C'est une situation hors de notre contrôle.
Pendant ce temps-là, tu continues à payer les comptes.
Oui, les comptes, il faut qu'ils continuent à être payés. On espère de tout cœur qu'on va pouvoir recevoir l'aide, la subvention pour les loyers, pour aider à payer pour les loyers. Mais sinon, tous les autres paiements doivent se faire. Là. Puis j'ai un propriétaire qui est très compréhensif, il veut pas me mettre à la porte, là, il comprend la situation, il est dans la même situation aussi. Mais même s'il me permet de prendre du retard sur mes paiements, ce qui est déjà rassurant, là, il va quand même falloir que je le paye là, éventuellement. Puis là, éventuellement, il va venir très vite, puis ma clientèle, elle, va-t-elle pouvoir revenir très vite? Puis ce qui est inquiétant, c'est ça, c'est que ça m'a pris 10 ans pour être capable d'arriver à subvenir à mes besoins. Puis ça, je parle même pas de me payer moi là, comme professeur là, ou directrice, on n'y pense même pas là. Mon souhait, c'est d'être capable de subvenir à mes besoins personnels puis à ma famille. Là. Je veux être capable de payer des comptes familiaux. Là. Ça m'a pris 10 ans à être capable de faire ça. Là. Est-ce que je vais, après la pandémie, tomber à zéro puis ça me prend un autre 10 ans pour revenir là? C'est épouvantable. Là. J'ai plus d'économie, j'ai des dettes pas possibles. Là. Donc, le sociofinancement, c'est une bouée de sauvetage. Là. Il faut que je remonte à la surface puis que je m'accroche à quelque chose.
C'est la question que je voulais te poser. Ça représente quoi pour toi, le sociofinancement? Tu le dis bien?
Premièrement, j'étais pas au courant qu'il y avait ça qui s'en venait, que vous étiez tout un groupe de personnes à préparer ce projet-là pour me venir en aide, même si on se connaissait pas personnellement. Ça m'a fait un genre de coup, là, un peu comme une annonce vraiment percutante. Là. Je l'ai vraiment senti physiquement. Ah, ça m'a donné un coup là, au cœur de voir qu'il y avait des gens qui pouvaient être aussi généreux de leur temps, puis de leur énergie, puis de leur cœur pour une entreprise, puis pour moi, pour une personne qui ne connaissait pas tellement, puis ça me fait tellement, tellement chaud au cœur, ça fait tellement du bien, c'est réconfortant. C'est vrai que je le vois un peu comme une bouée, puis je le sais, toute l'énergie que vous avez mis dans le projet, là, ça me jette en terre. c'est l'énergie que moi, j'avais plus, là. C'est vraiment ça, là. J'étais à bout de souffle, là. J'ai le plus grand des merci pour tout un chacun d'entre vous. C'est grand, c'est plus grand que moi. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et c'est une aide qui est extrêmement mémorable, nécessaire et qui me rend très, très, très reconnaissante. Alors, merci, merci, merci.
J'aimerais ça que tu nous parles des bienfaits physiques, mentaux de danser.
Avez-vous 2-3 heures? c'est tellement, tellement... Pour moi, pour le pratiquer, là, depuis que je suis toute petite, là, je pense que ça devrait faire partie de l'éducation de chacun, là, parce que les bienfaits sont tellement énormes, là, physiques et mentaux, et juste pour la valorisation de soi, la relation avec les autres, ça nous permet de développer un spectre tellement, tellement large. Moi, ce que je reçois souvent des gens qui viennent s'inscrire à l'école et qui ne connaissent pas la danse, qui sont curieux, mais qui ne connaissent pas ça, ce que je reçois, c'est que l'idée préconçue, c'est que la danse, c'est l'esthétique du mouvement, qui est prioritaire, qui est numéro un. Puis c'est tellement pas ça. Le développement est beaucoup plus personnel, individuel. Vraiment, là, c'est sûr qu'on bouge, on est dans le mouvement, mais on veut rentrer dans le corps. Tout qu'est-ce que le corps est capable de faire, tout qu'est-ce que le corps n'est pas capable de faire, c'est de développer notre conscience corporelle, de voir où sont nos limites, qu'est-ce que je peux travailler, comment je peux améliorer ça, pas pour l'esthétique, mais pour le bien-être du mouvement, la qualité du mouvement, trouver comment je peux transformer un mouvement pour qu'il rentre dans mon corps, peut-être de façon différente à l'autre personne qui est à côté de moi, parce qu'elle a un corps différent. Lui, il a des capacités physiques qui sont différentes des miennes, mais comment est-ce que je peux transformer l'information qui m'est donnée puis le transposer dans mon corps à moi avec mon bagage personnel, mon environnement, c'est ultra, ultra personnel, au niveau du corps. Après ça, quand on rentre le contexte de groupe, c'est tout le spectre émotif qui rentre en ligne de compte, le lien d'appartenance qu'on peut créer auprès des autres membres du groupe, la relation de confiance qu'on développe avec notre professeur et vice-versa, le professeur, lien de confiance avec ses élèves, de voir comment on devient un membre important de ce groupe-là, même avec nos faiblesses, même avec mon pas capable de faire la split parce que j'ai beaucoup de difficultés au niveau de la flexibilité. Comment est-ce que je vais travailler avec les membres de mon groupe pour développer au maximum de mes capacités à moi? Tout ça dans un environnement qui est extrêmement respectueux, où on se sent en sécurité de faire des erreurs, où on se sent en sécurité d'être poche, nul, tout croche, je me suis trompée de côté, je ne sais pas comment faire une pirouette. C'est à ça que ça sert des cours de danse. C'est des essais, c'est des erreurs, c'est un soutien, c'est de se faire prendre par la main puis se dire « comme tu es, c'est parfait, puis on va travailler pour que tout ce que tu voudrais que soit mieux, on va le faire ensemble. » Moi, j'ai des cours où est-ce que pendant 30 minutes, on discute seulement de « je suis pas capable de faire ce mouvement-là, je suis frustrée, je suis pas capable, je me tape sur la tête, je me trouve laide, je me trouve grosse. » Tout ce qu'on se dit dans nos têtes là, de pas gentil, on peut le verbaliser dans notre cours parce que tout le monde est ensemble, tout le monde vit la même chose, puis on se soutient, puis il n'y en a pas de jugement. Dans mes classes, en tout cas, il n'y en a pas. C'est comme ça que je forme mes professeurs. C'est comme ça que je veux que nos élèves soient encadrés. Puis ça, c'est, tu sais, au niveau psychologique, émotif, social. Sauf que quand on vient dans un environnement comme ça où on se sent tellement en sécurité, bien là, le dépassement de soi, il est beaucoup plus accessible. On n'est pas dans un environnement compétitif où j'ai envie de peut-être me blesser pour me faire voir, pour me faire entendre, puis pour que je sois mise en valeur, là. Moi, chez moi, là, chacun va être mis en valeur à sa façon, là.
Ding-dong, 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 nos cœurs sont des beaux cadeaux. Ding-dong, 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 c'est l'heure de les déballer.
Jeanne, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Ben, merci de l'invitation, c'est gentil.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as accepté l'invitation de cet élan de générosité puis de ramasser de l'argent pour l'école de danse de Geneviève?
Je pense que
Ton entreprise.
Ben, c'est parce que, tu sais, chez Michel, je te dirais que ça fait quelques années que quand arrive la saison des sapins de Noël, tu sais, les sapins de Noël, c'est une saison que j'affectionne énormément. 24 heures dans une journée, c'est jamais assez pour vendre des sapins. Tu voudrais être là. Des fois, tes bras te font mal, t'as mal partout, mais t'as le goût d'être là. À un moment donné, il faut aller dormir aussi. Puis il y a quelque chose par rapport à mon entreprise à ce temps-là de l'année que, on dirait que depuis que je suis jeune, Noël, c'est une fête d'amour, de partage. C'est une fête qu'on se rassemble, que les mères de famille se donnent pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Il y a quelque chose de Noël, pour moi, c'est tout ça qui m'habite toujours. Puis ça fait quelques années que je trouvais que... Je me suis dit, ça serait le fun qu'on fasse un événement, qu'on puisse célébrer quelque chose, qu'on donne quelque chose à quelqu'un à ce moment-là, à travers l'entreprise. Ça a toujours été là, mais je ne savais jamais, tu sais, je savais jamais vraiment comment ou quoi. Puis cette année, ben ça s'est comme présenté tout seul, avec des discussions en gang, on jasait, on cherchait un projet. Puis tout d'un coup, je le sentais, j'étais comme, j'étais gêné même de proposer, mais c'était plus fort que moi. On dirait que mon cœur disait non, vas-y. Ben c'est ça, fait que tu sais, comme quand s'est présentée la situation de Geneviève, je pense que ça me trottait depuis un bout que je me disais, il me semble qu'on est chanceux. Je suis chanceux. La COVID, c'est difficile pour beaucoup de mes clients en ce moment. J'ai beaucoup d'amis qui ont des restaurants en Italie. Ça va pas bien. Puis nous autres, au marché Jean Talon, même si ça a été comme compliqué depuis 2-3 ans avec les médias, il y a eu des choses qui ont été difficiles, mais Colin, on réussit toujours à gagner notre vie. On n'a pas perdu d'argent depuis les dernières années. Puis même la COVID, ça l'a aidé le marché. Fait qu'on dirait que c'était comme, OK, non, je ne vais pas attendre d'être millionnaire pour donner de l'argent, je vais attendre toute ma vie sûrement. Fait que je me suis dit, l'élan était là, la situation s'est présentée. Puis c'était comme, OK, go for it, on y va, on saute. On savait pas, même au début, je savais pas, OK, qu'est-ce que je donne, combien je donne. Tout était pas, on l'a découvert tout ensemble dans la gang, tranquillement. Puis c'était ça la beauté, tu sais, en discuter, puis à voir combien je suis prêt à donner, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de donner. Tout est arrivé vraiment comme, tout s'est placé tranquillement, puis c'était pour le mieux, tu sais.
Est-ce que ça a été difficile à faire passer cette idée-là dans ton entreprise avec tes partenaires d'affaires puis ta gang d'employés ou est-ce que tout le monde a embarqué assez volontairement?
Ça a été très simple parce que, dans le fond, quand je parle avec moi, mes associés qui sont ma famille, à un moment donné, c'est très simple. C'est comme, ben, fais-le, Carlo. c'est comme ça. Dori, là, mais... T'sais, dans chaque entreprise familiale, il y en a toujours un qui est un peu plus le leader. Puis chez nous, c'est moi. Fait que je pense que j'ai toujours la confiance. J'ai pas besoin de parler longtemps avec mon père ou mon frère. Ils me font confiance dans pas mal plein de choses. T'sais, on s'assistine pareil, puis des fois, il y a des affaires qui font pas mon affaire, puis il y a rien de parfait, là, t'sais. Mais je pense que le lien d'amour de famille que j'ai avec mon père et mon frère, t'sais, c'est simple, c'est comme... Je vais jamais choisir mon lien avec toi qui est monétaire avant mon lien familial. C'est vraiment important. Mais dans le cas présent, je pense que ça a été très simple. C'est comme, ben, tu sais, on te suit.
Jeanne, une fois que tu as mis le projet sur pied, que la famille, le papa, le frère, les frères ont accepté, la maman, pour les employés, est-ce que tout le monde avait le goût de faire cette journée-là ou est-ce que ça s'est fait un peu à reculons ou au contraire, tout le monde était
Ah non, regarde, c'est tellement drôle parce que je leur avais dit cet été, quand on avait décidé de faire le projet, je dis, guys, je quitte pendant quelques mois, mais je vous promets, je sais pas si on avait décidé la date, mais j'avais dit début décembre, il y a un party qui s'en vient chez Michel, puis sans eux, là, chez Michel, ça n'existe pas. Puis la journée du 5 décembre, puis je veux que ma gang, elle soit bien. Je veux pas qu'elle soit, tu sais, s'il pleut, s'il neige. Puis François, écoute, il était tellement généreux. Là, il est venu monter un petit chapiteau. Il m'a rien chargé, là, tu sais. Il est vraiment venu m'aider. Il a monté le chapiteau pour nous autres. Il est venu nous aider cette journée-là pour vendre des sapins aussi. Puis j'avais dit, Frank, si tu peux venir, là, il faut qu'il se fasse opérer à l'épaule, là, je vous le dis, là. Il rush, le gars. Il était là du matin au soir. Sa femme est venue nous aider aussi à m'emmener avec les enfants. Mes employés ont eu du fun et ils étaient brûlés à la fin de la journée.
Hey, vous n'avez vendu en maudit des sapins cette journée-là? Ça n'arrêtait pas?
Inespéré. Écoute, j'ai encore la machine qui me fait mal, le bruit de la machine qui emballe. Jamais vécu ça de ma vie. C'est, je vous dis, là, j'en ai des chums. Moi, j'en ai des amis qui vendent des sapins partout à Montréal. On se parle, là. Même eux, quand j'ai dit, hey, « Guys, on a vendu 450 cas de sapins. » Ils disent, « Ben, on n'est pas sérieux. » Ben, oui. Inespéré. J'ai pas vu venir la vague de gens qui est arrivée là, là. Oubliez ça, jamais en 100 ans. Non, never.
Là, j'aimerais ça. On était là tous les trois cette journée-là, le 5 décembre. Marie-Claude était là, Jeanne était là et j'étais là. Qu'on se ferme les yeux quelques minutes, puis qu'est-ce qui nous reste comme image? Qu'est-ce que ça nous a permis de vivre ensemble? Puis c'était quoi qui dominait comme feeling?
Je vois Jeanne courir partout, mais avec tellement de joie, tu es tellement heureux.
Ah ouais.
Et c'était contagieux. C'était la joie et puis la connexion entre nous autres, connexion entre le groupe qui a organisé cet événement-là, puis chez Michel, les employés, tout ça, la connexion qui s'est créée facilement.
Moi, Marc-Claude, c'est tout ça, ce que tu dis. Puis moi, l'image qui me revient, c'est ça, ce genre de journée-là. C'est inattendu. C'était comme si j'avais 5 ans avec mes amis, là, puis on jouait au hockey, puis on faisait semblant de faire un but, puis là, de gagner la Coupe Stanley. Et c'était comme, ouais. Puis là, il y a comme une autre gang qui embarque, puis qui joue avec toi, puis t'as plein de fun, puis c'est...
Exact.
Ouais.
Ouais.
C'était comme un rêve. Ouais, de la gratitude, c'est un mélange de plein de choses.
Non, je suis d'accord.
Et toi, génie?
Ouais, génie, toi.
Moi aussi, la première image qui me vient, c'est vraiment celle de la joie. C'est comme tout le monde était de bonne humeur cette journée-là. On a passé la journée dehors, il faisait pas de temps froid, mais il faisait moins un, moins deux, tu sais, puis le soleil était là, puis il n'y a personne qui s'est plaint. Tout le monde était volontaire, tout le monde était généreux. Puis c'est comme le feeling de ensemble, tu sais, c'est comme je regardais ça marcher, tu sais, comment ça allait vite. Moi aussi, Jeanne, je te regardais courir à gauche et à droite partout, puis avec le grand sourire sur les lèvres. Puis c'est comme c'est le sentiment d'être dépassé. C'est comme, tu sais, chacun a apporté sa couleur. Puis ben, ça a fait un arc-en-ciel. Ouais.
Puis tu sais, aussi, Eugénie, si je peux rajouter. T'sais, dans la vie, on veut toujours que les choses fonctionnent. T'sais, du succès dans la vie, c'est personne qui dit oh, « moi, je veux pas de succès ». Mais quand tu travailles pour avoir du succès, c'est une chose, mais quand le succès il est inattendu puis que tu t'es, ça fait du bien. C'est ça, j'allais dire, des fois, il y a une joie de succès, mais c'est un bon succès. Puis c'est heureux, puis c'est correct d'avoir du succès dans la vie. Puis ça, cette journée-là, là, c'était un succès. Puis de me permettre de savourer le succès de ce qu'on a créé ensemble, puis de mon magasin avec plein de choses que j'avais faites différentes, puis que je voulais qu'ils arrivent, puis qui sont arrivés. C'est ça, tu sais, c'est comme, des fois, c'est le fun de célébrer un succès, puis que ça allait à quelqu'un qui n'avait de besoin. Tout ça, là, toute cette affaire-là.
Ouais.
J'étais content de pouvoir aider Jen avec vous autres, participer avec vous autres au projet qu'on a fait ensemble. Tu sais, il y a tout ça, là, c'était tellement bon.
Puis votre gang d'employés, à la fin de la journée, là, vous deviez être crevés, mais c'était quoi le feeling là, qui restait chez Michel? Avez-vous envie de recommencer l'année prochaine?
Ben oui. Écoute, ce genre d'événement-là, écoute, ça m'a donné plein de... Ben déjà, j'ai acheté des nouvelles cabanes, j'ai déjà commencé à... Puis dans mes employés, il y en a vraiment qui sont généreux. Tu sais, j'étais entouré de gens généreux. Ils m'apprennent à être plus généreux. Puis il y Puis le feeling, c'était comme... tu sais, les gens étaient... Là, les gens, les employés étaient fiers à la fin de la journée. Je le sentais que les gens étaient fiers dans mon équipe.
J'aime ça comment tu nommes que tout ce monde-là t'apprenne à être généreux parce que moi, c'est pas ma première nature d'être généreuse. Des fois, j'ai l'air généreuse, mais c'est pas toujours vraiment généreux. Mais une journée comme ça, à voir les autres aller, je suis d'accord avec toi, on apprend à l'être un peu plus.
C'est même jeune, je me souviens, j'avais un élan de générosité. J'étais un gars généreux avec mes amis, mais il y avait quelque chose qui était... c'était pas... j'étais pas généreux peut-être pour les bonnes raisons toujours. Je voulais qu'on m'aime, je voulais plaire. Puis je le sais qu'il y a un petit gars en dedans de moi qui est vraiment généreux. Je le sens, ça me touche quand je le dis. Je le sens qu'il y en a un qui veut vraiment donner. Puis ce projet-là, c'est ça, quelque part. Tu sais, ça me connecte. Puis je veux vraiment apprendre à reconnecter avec ce petit gars-là en dedans de moi qui veut faire une différence autour, qui veut vraiment donner pour les bonnes raisons. Ça, tu sais, j'apprends. J'ai beaucoup de gratitude pour le projet parce que je le sais que ce petit gars-là, il est encore là en dedans de moi, puis j'apprends. J'ai pas perdu espoir qu'il est encore là en dedans de moi. Puis je suis vraiment chanceux parce que j'ai des gens comme vous, plein de monde autour de moi qui sont là pour m'aider. Ah, c'est tellement beau la vie là, dans des moments de même. Là.
Hey, merci, Jeanne. C'est vraiment super ton témoignage. Merci, Marie-Claude. Ça donne envie d'être généreux. Ça donne envie de continuer à faire ce qu'il y a à faire pour l'aide de plus en plus.
Sont des beaux cadeaux. Ding dong, ding dong, ding dong. C'est l'heure de les déballer.
Bonjour Denise, bonjour Marie-Claude.
Bonjour. Allô.
Ben merci d'être là. Denise, peux-tu nous dire pourquoi donner c'est bon pour la santé?
Ah, j'aime ça cette question-là, c'est vraiment le fun. Bien, d'abord, c'est que ça nous libère d'une croyance assez populaire, merci, malheureusement, qui dit qu'on devrait être capable de se réaliser ou de réaliser nos rêves tout seul. On a beaucoup ça dans notre culture et c'est néfaste parce que c'est pas la réalité. Comme être humain, on a tous besoin les uns des autres, pas pour remplir notre vide, mais pour donner notre meilleur et pour jouir du meilleur, on a besoin les uns des autres. Puis pour vous en donner un exemple très simple, concret et vraiment accessible, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'air qu'on respire ne vient pas de nous. C'est-tu incroyable? On ne génère pas soi-même son oxygène. Je ne sais pas si c'est l'oxygène, mais en tout cas, l'air, on ne génère pas soi-même l'air qu'on respire. On le reçoit de l'extérieur puis on le redonne à l'extérieur. C'est ça, on appelle ça la respiration. Et puis, pour moi, ça illustre bien le fait que, qu'on le veuille ou non, on est reliés les uns aux autres. Et puis, on est aussi bien d'être reliés par le cœur, ça coûte bien meilleur, c'est très bon pour la santé, que d'être reliés par n'importe quoi d'autre. Alors, la première chose que ça fait, c'est que ça nourrit nos liens. Ça amplifie nos liens, ça nourrit nos liens, puis ça nous permet de jouir, de se laisser porter. Parce que quand on s'ouvre comme ça, on est porté par ce que j'appelle le courant amoureux du cœur, un peu comme un surfeur qui attrape une vague puis qui est porté par le courant. Alors, le fait d'être généreux, de faire contribuer au bonheur ou au rêve de quelqu'un d'autre, ça nous permet d'être pris dans la vague du cœur puis d'être nourri aussi puis de nourrir nos liens. Alors ça, c'est une des premières choses qui est intéressante. Une autre chose, c'est que ça nous sort de la bulle de notre tête. De la bulle de notre tête, puis de l'isolement aussi. Parce que quand on est dans notre tête, souvent, on est isolé. Alors, dans notre tête, souvent, on tourne trop souvent en rond dans nos problèmes et nos pensées sombres. Alors, ça nous sort de cette bulle-là, puis ça nous connecte au courant du cœur. Alors, déjà là, ça fait vraiment du bien. Troisièmement, et plus physiquement, c'est que ça active le nerf vagal. Le nerf vagal, c'est un nerf qui connecte à peu près partout dans le corps et puis qui est celui qui génère ou qui active l'oxytocine, je crois, je ne suis pas très loin.
L'oxytocine.
Et puis, ça, c'est l'hormone de l'amour, imaginez-vous. Puis, pouvez-vous vous rappeler comment on est quand on est en amour? Quand on est en amour, on est plus inspiré parce que ça, on est connecté aussi à ce que j'appelle le génie du cœur. Les courants amoureux, mais il y a le génie du cœur aussi parce que de plus en plus, les recherches scientifiques démontrent à quel point le cœur est un autre cerveau, mais un cerveau plus intuitif. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est tout ça qui rentre en jeu. Alors, quand on est en amour, on est plus inspiré, on est plus libre. Libre, au début, peut-être qu'on essaye d'avoir de l'air parfait, là. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui se libère. On est plus fou, on est plus inspiré. Alors, le nerf vagal, ça nous connecte justement à l'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour. Et qui, ce qui est merveilleux, c'est que ça diminue le rythme cardiaque. Ça diminue le stress, ça diminue l'angoisse et ça fait qu'on sent moins les différences, les séparations entre nous. Alors, on a un plus grand sentiment d'appartenance.
Ça donne envie, en tout cas.
Je pourrais juste rajouter une petite expérience par rapport au nerf vagal. Je suis massothérapeute, puis quand on masse la tête, par exemple, en tragère, quand on commence avec la tête, j'avais appris que c'est justement parce que ça relâche le nerf vagal qui part ici, puis souvent, on voit les personnes, ça commence à gargouiller, fait que ça descend jusqu'au diaphragme, qui a un impact sur tout le reste.
Oui. Puis le système digestif aussi, ça a un impact sur le système digestif.
Oui, c'est fantastique, je trouve ça. Puis je trouve que ça, de la manière que tu me nommes, c'est... Oh mon Dieu, ça amène du cœur dans tout ça.
Ben oui, exactement. Oui. Alors, tout ça est relié.
Denise, c'est tellement inspirant ce que tu nous racontes. Là, en plus, on a comme un défi de société. On est en pleine pandémie, il faut faire attention. On n'a pas le temps de se voir autant qu'on voudrait. Fait que moi, j'ai l'impression, en tout cas, que mes relations, mes liens sont plus importants que jamais. Puis à Noël, encore plus.
Exact. Alors, le fait de contribuer au bonheur ou au rêve de quelqu'un d'autre, justement, ça nous permet de nourrir nos liens, amplifier nos connexions d'une manière qui fait du bien autant à celui qui donne, qu'à celui qui le reçoit. Parce que quand on le donne, on est aussi connecté et on profite autant de toutes ces belles hormones et activer le nerf vagal ou vague, comme vous dites. Alors, c'est merveilleux et on en a autant, d'autant plus besoin qu'on est en pandémie. Alors, ça nous sort vraiment de notre bulle de pouvoir donner généreusement, mais avec bonheur. On donne pas pour être correct, pour être fin, pour être parfait. On donne juste parce qu'on a le goût de faire le bonheur de quelqu'un d'autre et de jouir de ce bonheur-là.
Ce projet-là de donner, de ramasser de l'argent pour l'école de danse de Geneviève, on le fait en groupe et on a vraiment beaucoup de plaisir à le faire en groupe.
Exactement.
Est-ce que ça change quelque chose de le faire ensemble ou de le faire tout seul? Donner tout seul et donner ensemble, qu'est-ce que ça change?
Donner tout seul, déjà, c'est très, très bon. Mais donner ensemble, ce qui est merveilleux, moi, quand je vous observe, ce qui est merveilleux pour moi, c'est de voir comment il y a quelque chose qui se crée puis qui émerge organiquement à partir des talents de chacun. Alors, chacun a des talents différents, des élans différents. Puis, à travers votre projet, vous découvrez même certains talents ou certains élans que vous connaissiez pas. Comme là, je vous vois faire vos décorations de Noël. Je trouve ça tellement précieux, réjouissant de voir tout ce qui naît, qui serait jamais né autrement, puis comment votre créativité s'exprime et se développe à travers ça. Alors, il y a l'aspect de la création collective qui est vraiment merveilleuse et l'aspect de vos liens aussi qui se renforcent. Puis, créer quelque chose en groupe, ça va à des endroits où on ne va pas tout seul et ça amplifie, selon moi, quand on est en groupe, ça amplifie vraiment tout ce qui est bon, et puis ça le fait grandir.
Il y a la question du soutien aussi là-dedans. Tu parlais des décorations de Noël. Moi, je ne suis pas bien, bien bonne pour faire des décorations de Noël.
Exact.
Et dans ce temps-là, ben, je suis les autres, puis je me laisse porter, puis j'apprends.
Exact.
Il y a d'autres domaines où ben, c'est moi qui prends le lead. Fait que c'est vraiment un beau mélange.
Tu as raison, tout à fait. Alors, vous apprenez les uns des autres, vous vous découvrez les uns à travers les autres. Tu n'aurais probablement jamais fait ça.
Non.
Moi non plus, d'ailleurs. Alors, c'est vraiment fascinant de voir ça émerger puis de recevoir le soutien. Quand quelqu'un est meilleur dans quelque chose, il peut soutenir ou inspirer quelqu'un d'autre. C'est ça qui arrive aussi. Il y en a qui se mettent à faire des choses qu'ils ne faisaient pas. Alors, ça, c'est la beauté. Tu as tout à fait raison.
Alors, Denise, quand tu dis que c'est, ça goûte meilleur de se laisser porter par son cœur, que par autre chose. Comment peux-tu donner comme deux, trois exemples de c'est quoi les autres choses par lesquelles on se fait porter?
Ah, okay. Bien, c'est intéressant ce que tu dis dans le fond, parce que souvent, ce que je voulais ajouter, c'est que le fait de contribuer ou de donner avec bonheur son attention, son énergie, ses talents pour quelqu'un d'autre, ça enlève du chemin. Les propres parties de nous qui sont dans le chemin justement de nos bonheurs et de l'expression de nos talents. Et puis c'est les parties de nous, pour répondre à ta question, qui sont trop crispées sur nous-mêmes et qui sont trop tendues vers nos buts parce que pour toutes sortes de raisons, on a peur de ne pas réussir, on veut prouver sa valeur, on pense que si on ne réussit pas, on ne mérite pas le bonheur. Alors, c'est toutes les parties de nous qui essaient de se prouver puis qui sont trop crispées, tendues, puis ça coupe, ça diminue et le courant amoureux et le courant créateur.
Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de l'importance puis pourquoi on devrait donner puis c'est bon pour nous. Puis recevoir maintenant, est-ce que c'est aussi bon? Est-ce que ça goûte aussi? Comment on fait pour recevoir pleinement?
Bien, c'est fun parce que ce que tu me rappelles, mon exemple du début, c'est on ne peut pas juste expirer. On a besoin d'inspirer. Parce que si vous faites juste expirer, vous allez finir par vous vider et vous épuiser. Alors, pour donner librement et gratuitement, on a besoin d'inspirer, d'accepter d'avoir besoin des autres, de s'ouvrir à ça, puis de recevoir des autres, puis de se réjouir, d'avoir de la gratitude. Alors ça, c'est la beauté aussi, ça génère de la gratitude quand on accepte de recevoir, mais ça fait aussi qu'on se vide pas. Parce qu'il y a des gens qui donnent trop pour toutes sortes de raisons, comme je disais tantôt, sont dans le rôle de sauveur, ou ils veulent se prouver, ou ils ont besoin de mériter je sais pas quoi. Mais on a vraiment besoin d'expirer et d'inspirer. Puis souvent, on a de la difficulté ou on a des craintes parce que ça nous rend vulnérables. Avoir besoin des autres, recevoir des autres, ça nous sort justement de la bulle de la performance dans notre tête et de toutes nos comment on y peut être pris. Et puis, ça nous oblige, ça nous amène à être vulnérable, à accepter de pas tout l'avoir tout seul, pas tout le savoir tout seul, ce qui est parfait, c'est une détente inouïe, c'est merveilleux et c'est réjouissant de vraiment se permettre de recevoir. Alors, comment on fait ça? Mais on s'ouvre, on accepte d'avoir besoin, on laisse aller nos exigences trop grandes, de vouloir se prouver, être capable tout seul. D'abord, ça se peut pas. Il n'y a personne qui est né tout seul. Je sais pas si vous avez remarqué, là. Mais on n'est pas né personne tout seul. J'ai plein d'exemples très concrets, très proches de nous. Ça implique qu'on accepte d'être vulnérable et de donner de l'importance aux autres, de donner toute leur importance aux autres. Et c'est merveilleux aussi parce que, comme je le dis souvent, le fait d'avoir de la gratitude, ça augmente notre valeur, mais pas la valeur qu'on prouve, notre valeur intrinsèque, celle qu'on n'a pas besoin de prouver. Parce qu'on grandit au contact des autres, on se sent apprécié, on se sent reçu, on se sent soutenu.
La gratitude aussi, c'est bon pour la santé.
Ben oui, il y a toutes sortes de recherches de plus en plus de faits là-dessus. Puis moi, j'ajouterais, il y a aussi la bienveillance ou la compassion et l'émerveillement. L'émerveillement, ce que ça fait, là, ça nous redonne notre innocence d'enfant. Ça nous permet de découvrir, puis je vous vois quand vous faites votre projet, vous découvrez, vous vous émerveillez, puis il y a toutes sortes de choses, quand on a un projet comme ça, on découvre le chemin au fur et à mesure, et on peut s'émerveiller au fur et à mesure, alors on retrouve un peu une innocence, une joie d'enfant, puis l'émerveillement, ça nous permet d'apprécier tout ce qui se passe dans l'entourage, que souvent on regarde pas assez. Puis ça réjouit notre cœur, ça fait grandir aussi la joie du cœur. Puis, au niveau de la création, ce qui est merveilleux, quand on part du cœur pour créer, comme je dis, ça enlève du chemin les parties de nous trop crispées, trop centrées sur nous, qui veulent trop se prouver. Puis, je pense à cette comédienne-là ou cette actrice-là qui devait aller animer une soirée de bénéfice puis rendre hommage à quelqu'un. Puis, elle était toute crispée, puis elle avait peur, puis je sais pas, je vais être capable, puis j'ai jamais fait ça, puis je vais-tu être bonne. Puis là, je l'ai juste invitée d'abord après avoir reçu ses peurs, je l'ai juste invitée à se demander qu'est-ce qui rendrait cette personne-là heureuse, à qui je vais rendre hommage, qu'est-ce qui ferait qu'elle sortirait de là comblée, heureuse, puis que les spectateurs aussi, ceux qui étaient à la soirée, puis là, elle a dit, ben dans le fond, j'ai juste besoin d'apprécier, d'avoir de la gratitude pour ce qu'elle a fait de bon, puis de parler de ça, puis de vraiment sentir. Alors, c'est ce qu'elle a fait, puis elle est revenue après, puis elle m'a dit, je me suis jamais sentie si satisfaite et libre et inspirée dans mon métier. Alors, c'était parce qu'elle était partie du cœur, parce qu'elle était connectée sur contribuer à la personne qui était reconnue ce soir-là.
C'est inspirant.
Oui. Alors, pour moi, quand on travaille avec toutes sortes de nos talents, je vois souvent les gens à quel point leurs talents s'épanouissent quand ils partent du cœur, au lieu de quand on part de vouloir être bon, prouver sa valeur, toutes sortes d'autres choses comme ça. Alors, le cœur, c'est vraiment notre deuxième cerveau. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, là, mais c'est un autre cerveau qu'on a. Il y a toutes sortes de recherches de faits là-dessus. Alors, c'est de toute beauté de l'activer avec ces qualités-là qui sont la bienveillance ou la compassion, la gratitude et l'émerveillement.
En tout cas, ça donne envie d'en faire le premier cerveau. C'est moins compliqué que dans ma tête.
Bien, ça, c'est certain. C'est plus intuitif, c'est plus simple, mais c'est plus productif, je dirais, plus fructueux et plus satisfaisant.
Marie-Claude, tu participes toi aussi à ce projet-là depuis le début, pas le premier. Qu'est-ce que ça te donne à toi? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Bien, dans le fond, j'ai l'impression que je vais remettre dans mes propres... Ça me parle beaucoup, tout ce que Denise a nommé. Ce que ça me porte, ce que ça m'apporte. En fait, j'ai cette sensation-là, particulièrement dans ce projet-là. Je me sens comme la goutte dans l'océan. Et c'est à la fois, je sais pas comment dire ça, c'est à la fois vertigineux et nourrissant. Et j'imagine que c'est une espèce de vulnérabilité. Puis je me sens plus avec vous que jamais. Et ça me comble profondément de me sentir connectée avec vous. Puis de laisser plus circuler le fait que je suis pas... Comme tu nommais, Denis, ça me parle tellement que ça vient pas tout de moi. Et c'est bon ça, de nous sentir ensemble. Puis de sentir aussi, à un moment donné, l'enthousiasme d'une des personnes venir chercher ma propre enthousiasme. Cette espèce d'aller-retour, là. Je me sens faire partie. Et ça fait longtemps que je cherche ça. Et ça se fait de façon naturelle. Dans le fond, j'ai juste à m'abandonner et ça se passe. Ça vient me chercher dans mon goût d'être proche, d'être avec.
Oui, puis est-ce que tu t'es découvert des habiletés ou des élans nouveaux ou des dons à travers tout ça?
En fait, quand on a fait les décorations, j'ai déjà fait des bricolages et des choses comme ça, mais... Jamais avec... C'est encore le fait de le faire ensemble qui est différent pour moi. Tu sais, j'ai déjà bricolé toute seule dans mon coin, mais là, de le faire, parce que souvent, je le fais avec une autre participante, et puis elle me donne des idées. Puis c'est le fait de demander de l'aide, de dire « Hey, toi, tu ferais ça comment? » Ça, c'est nouveau pour moi et j'adore ça. En fait, ce que c'est en train de libérer, là, c'est pas un don, mais c'est une qualité. C'est que j'ai tellement plus d'énergie. J'ai tellement plus d'énergie de disponible. Je fais ça en plus de tout mon travail. Je fais plus de choses au travail. Et c'est puis j'en ai à redonner encore.
c'est bien parce que ça illustre bien comment quand on s'enlève du chemin, on a plus d'énergie, ça circule mieux, donc on en a plus.
C'est vraiment ça.
Je pourrais dire la même chose aussi. Moi aussi, je suis surprise de voir que ça me donne plus d'énergie. Je suis dans une période de ma vie où c'est rempli, j'ai beaucoup de choses à faire. Puis, ben, de participer au projet comme ça, j'ai l'impression que ça me nourrit, ça me porte. Puis dans mon cas aussi, il y a comme un lâcher-prise. C'est comme, j'ai à prendre beaucoup de décisions pas évidentes ces temps-ci. Puis quand j'arrive pour faire le projet, puis ces quelques heures-là ensemble, c'est comme si j'avais une pause dans ma tête. C'est comme, OK, là, j'ai rien à décider. J'ai juste à suivre. Puis, bon, Marc-Claude a parlé des décorations. Moi, j'ai trouvé des grosses boules de styrofoam chez moi. Je suis en train de faire des boules de Noël. Puis, je n'ai jamais fait ça de ma vie, des boules de Noël. Puis là, je me demandais comment les faire venir pour pouvoir les suspendre. Puis là, il y a une des participantes qui m'a dit, « Bien, Génie, tu prends ça, puis tu fais ça comme ça. » Puis, j'ai dit, « Wow, my God, je suis capable de faire des boules de Noël. » C'est comme...
Est-ce que tu sens vraiment... un effet dans ta vie de tous les jours, est-ce que ça te rend plus amoureuse, plus créatrice, plus libre, plus innocente aussi, plus émerveillée? Alors, est-ce que ça s'étend dans les autres parties de ta vie?
C'est une bonne question. J'aime beaucoup le mot « innocence ». C'est celui-là qui m'accroche le plus. autant dans ma façon de faire à manger, dans ma façon d'interagir, de travailler, de préparer mes affaires, c'est comme je me laisse plus surprendre.
OK, c'est le fun.
C'est comme si je n'essaye pas de savoir d'avance comment ça va se faire. Oui, c'est ça.
Ah, c'est fun, c'est bien parce que c'est beaucoup aussi le groupe. Ce que ça permet, c'est de découvrir beaucoup le chemin au fur et à mesure que quelqu'un apporte quelque chose. Puis si je comprends bien, c'est un peu ta qualité d'être et d'expression qui se transforme dans ta vie de tous les jours.
Oui, il y a une légèreté. Ah. Il y a comme une légèreté qui vient avec ça. Puis qui se transpose déjà dans les autres sphères de ma vie. Je le remarque aussi dans mes relations avec mes deux fils.
Okay.
C'est comme, je pourrais pas l'expliquer directement, mais c'est comme si j'étais plus enfant avec eux. C'est comme si je communiquais plus d'égal à égal, puis que je me sens plus présente avec eux. Puis eux autres, ils s'ouvrent plus avec moi aussi. Je dis, mon Dieu, j'ai deux ados, puis ils me racontent leurs affaires. Fait que je suis la première surprise.
Messieurs, puis ce que j'entends aussi, c'est que tu joues plus. Ça vous permet de jouer. Surtout, oui. On ne donne pas assez de temps pour jouer.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est un très bon point, Denis.
Oui.
Bien, vos décorations, quand je vous vois, puis je les vois émerger, puis comment vous en parlez, il y a vraiment une notion de jeu parce qu'on ne peut pas vraiment prouver grand-chose, puis essayer de performer. Alors, c'est une découverte, puis un jeu qui nourrit le cœur, mais qui nourrit votre vie aussi, puis votre esprit. Comme dit l'innocence d'enfant, l'émerveillement.
Là, bien, je me prépare, je vais faire un arbre de Noël, puis j'ai envie de faire des boules pour mon arbre de Noël.
C'est fun.
Avant, j'aurais été acheter. Mais là, je vais faire.
Oui. Alors, tu as plus le goût d'inventer dans ta vie.
Oui, c'est bien dit. Ah, c'est ça.
C'est merveilleux. Tout ce que ça peut apporter, quelque chose d'aussi simple, de faire des boules de Noël.
Toi, tu es l'initiatrice de ce projet-là.
Oui.
De nous voir aller comme ça, qu'est-ce que ça te fait?
Ben oui, c'est un bonheur. Moi, je vois ça se déployer sous mes yeux. Je suis toujours toujours ébloui-tonné de voir ce qui émerge, ce que vous trouvez, où est-ce que ça s'en va, comment ça se développe. Alors, pour moi, je suis à la fois touchée, heureuse et émerveillée. Je le découvre au fur et à mesure et ça m'émerveille et ça me nourrit profondément, ça me rend heureuse, ça nourrit mon cœur, c'est clair. Puis là, je vois aussi Geneviève, que ça rend heureuse. Alors, pour moi, ça multiplie le bonheur, c'est clair, et ça m'émerveille.
En conclusion, Denise, est-ce que tu pourrais nous ajouter une petite phrase qui nous donne du oomph?
Moi, ce qui me vient, c'est que quand on fait les choses par amour et avec bonheur, évidemment, tout goûte meilleur. Puis on en jouit soi-même, nos créations en jouissent, nos relations en jouissent. Alors, l'amour, ça bonifie tout. Même si c'est des toutes petites choses, quand c'est fait avec et par amour, ça devient tellement meilleur et plus nourrissant, plus bienfaisant. Quand on fait les choses simplement parce qu'on aime ça ou on a le goût d'apporter ou de s'exprimer, d'exprimer nos talents, d'exprimer nos élans, de connecter avec les gens, quand on fait les choses pour ces motivations-là, on a le bonheur tout de suite à portée du cœur, en fait.
Rebonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien apprécié ce balado. J'ai plusieurs personnes à remercier qui rendent tout ça possible. Tout d'abord, un grand merci à mon complice technique depuis le tout début, Richard Lafleur. C'est grâce à lui et à ses talents que ça sonne bien. Richard est aussi musicien et c'est lui qui a créé l'identification musicale de ma santé pour la vie. Un merci bien senti à Jean-François Poulain, pour la chanson et la musique de Noël que vous avez entendue dans ce balado. Un grand merci à Geneviève, à Jeanne et à Denise pour le balado d'aujourd'hui et à toutes les personnes que j'interviewe dans ces balados. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Un chaleureux merci à mes compagnons créatifs des dernières années, Lynn, Marie, Marie-Claude, Joanne, Jeanne, Jean-François et Denise. Vous mettez du pétillant et du vrai dans ma vie. Et un immense merci à vous tous, les auditrices et les auditeurs. Grâce à vous, cette aventure est interactive et nourrissante. Vos commentaires me font toujours chaud au cœur. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, Je nous souhaite à tous que les nombreuses perturbations vécues en 2020 puissent nous faire apprécier encore plus l'importance des gens qu'on aime et la chance que nous avons de pouvoir vivre en paix. Joyeux Noël!